Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Un quatrième entretien des clés pour vivre, se relever toujours, c'est le titre de cet ouvrage paru aux éditions Artege. Son auteur est Clotilde Margontin que nous découvrons depuis le début de la semaine. Bonjour Clotilde.
Bonjour Nathalie, merci de me recevoir toujours.
Alors, au programme aujourd'hui, laissons-nous un petit peu peut-être conduire, peut-être vous interroger aussi sur ce moment, et vous le relatez aussi dans le livre. On donnait cette date hier lors de notre échange du 15 août. Une semaine après cette date où vous avez une idée très forte de mettre fin à vos jours, donc idée suicidaire, une semaine après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous prenez ce courage, cette force peut-être qui vous habite, ne serait-ce qu'un petit peu, pour prendre votre téléphone et faire cette démarche pour partir en maison de repos, en hôpital psychiatrique, car vous reconnaissez que votre état, vous êtes mal en point, vous n'allez pas bien, vous êtes épuisé.
Oui, exactement.
Et le moral en dessous.
Et exactement, complètement à plat, complètement épuisé. Donc il y a effectivement en l'espace d'une semaine cette envie suicidaire, puis ces retrouvailles avec mon mari où je sens que si je ne fais rien, en fait c'est mon couple qui va craquer. Cette décision d'aller voir mon médecin de campagne. Mon médecin généraliste qui pourrait peut-être m'aider, et puis surtout ce diagnostic, vous faites une dépression. Alors face à ça, c'est là où je ne vais pas être dans le déni, où je vais accepter le diagnostic et je vais en mesurer la gravité. À ce moment-là, je décide de m'organiser pour guérir de dépression. On ne guérit pas de dépression en un claquement de doigts, et c'est très long. Et je mesure que c'est tellement grave qu'il va falloir que je prenne une décision courageuse, celle de me faire interner, ce qu'on appelle à la demande du patient. C'est vrai que c'est assez rare dans le milieu en général et c'est dramatique, les patients arrivent de force, hein. Je décris dans le livre, j'ai assisté à l'internation de force d'un patient, mais d'être, de se faire interner en toute conscience, en toute liberté, c'est déjà être sur le chemin de la guérison. Voilà.
Et vous le décrivez très bien dans l'ouvrage.
Et oui, c'est sûr que le médecin me l'a dit, ça n'a rien à voir, un patient qui arrive libre et volontaire, il est déjà en marche pour se reconstruire. Et ça, c'est une démarche que j'encourage vivement, si certains de nos auditeurs pourraient se demander dans quel état ils sont, si c'est normal de se réveiller la nuit, si c'est normal de se lever le matin et de pas arriver à sortir de son lit, si c'est normal d'être triste plusieurs fois par jour, si c'est normal de sentir une... Vous savez, on parle du chien noir de la dépression, le chien qui vous écrase toute envie, si la fatigue ne passe jamais, malgré les cures de magnésium, les cures de fer, les cures de gelée royale, malgré tous les bons conseils appliqués, malgré la semaine de repos, si tout ça ne passe pas, il y a sans doute un phénomène d'épuisement physique, mental, il y a une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de honte à ressentir tout ça. Il faut juste se tourner vers le bon professionnel pour que cette fatigue physique, mentale ou sociale puisse être soulagée. Et il se trouve que dans mon histoire, j'ai décidé d'être internée dans une clinique spécialisée.
Permettez-moi, mais vous l'avez dit, il est important aussi pour les auditeurs qui vous écoutent, le fait d'avoir fait cette démarche vous-même de décider était déjà le début de la guérison.
Oui, c'était le début de la guérison parce que j'acceptais la maladie, j'acceptais...
Et vous avez accepté le diagnostic qui est tombé très vite.
Oui, j'avais accepté... J'avais très toute vite. Confiance, oui, parce qu'en fait, j'avais toute confiance dans ce médecin. Il a sauvé d'ailleurs un de mes enfants d'une maladie des reins. Il nous suivait depuis des années. Donc, j'avais toute confiance dans ce médecin.
La confiance fait des miracles.
Oui, la confiance, exactement. La confiance peut vraiment aider. J'ai eu envie d'écouter la gravité du diagnostic. Et surtout, j'étais dans un tel trou que, enfin, on mettait un mot sur ce que je vivais. C'était une sorte de libération déjà pour moi, d'entendre « c'est une dépression ». Ah, mais ce que je vis a donc un nom.
Donc il y a quelque un nom chose. Sur la maladie.
Oui, on le peut fait soigner. De nommer, exactement. Le fait de nommer la maladie, c'est déjà la guérir.
Est-ce que c'était quelque peu libérateur aussi dans votre vie conjugale, votre époux, qui finalement assistait depuis, je dirais, des mois et des mois à l'épuisement d'une épouse qui n'allait pas bien, hein, qui était dans un état de fatigue, de tristesse, de mort?
Oui, alors pour mon époux, à ce moment-là, c'est pas du tout libérateur. Il dit dans le livre d'ailleurs, François-Xavier relate bien que à partir du moment où j'ai été prise en charge, il se sent lui aidé et que c'est une libération pour
donc
lui.
C'est là qu'il est pris en charge lui-même.
Oui, quelque peu. Part. Hein. Mais c'est sûr qu'on peut pas dire que pour lui à ce moment-là, il s'est dit ça y est, c'est la fin du tunnel. Ça a duré encore plusieurs années derrière. Hein,
le tunnel. Ce temps aussi où vous avez été, je dirais, imprégné par cet état de dépression, donc de vraie maladie.
Oui, la maladie, la dépression est nommée 2 ans après les premiers symptômes et il a fallu 2 ans et demi de traitement pour pouvoir dire qu'on en sortait et enfin encore un petit laps de temps après pour parler de guérison totale.
Alors, vous vous rappelez ce moment où vous passez ce coup de téléphone pour la clinique et demandez donc un temps d'hospitalisation?
Et oui, je me rappelle de ce moment où j'ai eu beaucoup de mal à appeler. J'ai eu besoin de prier, de me mettre à l'écart. J'ai eu cette image de mon père malade qui m'est revenu, de ce courage qu'il a eu face à la mort, à la maladie. Mais surtout, ce qui me frappe avec le recul, c'est que ce coup de fil a été extrêmement rapide. J'ai appelé. De la part de qui appelez-vous? De la part de mon médecin traitant. Très bien, bah écoutez, j'ai une place dans 4 jours, on vous attend. Et en l'espace de quelques minutes, la place était réservée et j'étais attendue. Et je me suis surprise de me dire, mais c'est très rapide, il suffit d'appeler pour être prise en charge. Il y a eu quelque chose d'assez angoissant d'avoir l'impression d'être seule pendant 2 années avec cette fatigue.
Donc solitude, grande solitude.
Grande solitude et d'un seul coup, tout se dénouait et il suffisait d'un coup de fil au bon endroit.
Vous regrettez avec le recul 13 ans, et c'était il y a 13 ans, de ne pas avoir eu peut-être ce déclic d'appeler plus tôt?
Je crois que j'aurais pas appelé plus tôt parce que j'ai appelé parce que c'était vraiment la dernière chance.
C'était la dernière chance.
Donc je crois que quand on passe une telle étape, c'est qu'on n'a plus d'autres espoirs ailleurs. Mais je crois que ça en vaut la chandelle, que ça vaut le coup de passer ce cap. Si
alors
on
passer
est déjà,
ce cap ça... demande bon, un temps d'acceptation, de réflexion aussi après tous ces temps au fond où c'est une grande solitude, la dépression. Passer ce cap aussi d'appeler et de se faire interner, alors c'est quoi pour beaucoup de nos auditeurs peut-être quand on parle d'internement, de psychiatrie, de psychiatre, c'est, on le disait lors d'un entretien qui précédait, on pense à la folie, on pense à des traitements et on pense finalement qu'on va rester à tout jamais avec des traitements à vie. Ça n'a pas été le cas quand vous décrivez aussi très bien ce lieu, un lieu au fond magnifique.
Alors
peut-être positif pour ceux et celles qui seraient prêts, là, aujourd'hui, en vous écoutant, Clotilde Margontin, prêts et qui se reconnaissent dans un peu tous ces symptômes, tous ces signes que vous avez décrits depuis le début de la semaine, auraient peut-être, je dirais, le courage, l'humilité, est-ce qu'on peut parler d'humilité, de prendre ce téléphone pour faire cette démarche, de se faire interner pour un temps de soins, pour aller mieux.
Alors, je dirais qu'encore aujourd'hui, quand on parle de clinique psychiatrique, les deux choses que je vois dans ma tête, c'est « Ah, hôpital Sainte-Anne, ah, t'es fou !» Et je vois un malade habillé en blanc dans son lit avec un espèce de boulet de prisonnier au pied. On a quand même une image de la psychiatrie en France qui est vraiment cassante, terrible. Je dois dire que l'hôpital, le service psychiatrique en France, en hôpital, c'est pas ce que je décris dans mon livre en clinique spécialisée. Donc je crois que le médecin, le docteur Delcul, en préface de ce livre, le dit largement. Il y a un manque d'accès aux soins pour la psychiatrie en France et il y a un vrai souci avec l'hôpital. Si bien que je ne peux pas encourager nos auditeurs à aller à l'hôpital s'ils ont des troubles psychiatriques. Je les encourage vivement plutôt à trouver une clinique spécialisée. Malheureusement, je suis obligée de soulever un point important, c'est la prise en charge financière. qui est loin d'être satisfaisante aujourd'hui. Il faut avoir une bonne mutuelle et c'est ce qui me révolte, c'est que l'accès aux soins n'est pas possible pour tous. Donc il y a, s'il y avait un message à adresser à nos politiques, il est là. On doit rendre l'accès aux soins psychiatriques pour tous. Qu'est-ce qui se passe dans cette clinique spécialisée donc du réseau Clinéa? Il y a plusieurs cliniques spécialisées en France, deux en région parisienne bien renommées, Meudon et Garches, une en Haute-Savoie à Sévrier, mais il y en a d'autres.
Je me permets, vous donnez aussi toutes les bonnes adresses hein, de tous ces lieux à la fin de votre ouvrage. Hein.
Oui, de tous ces lieux que maintenant je connais plus ou moins, mais en tout cas vers lesquels j'oriente. Je voudrais citer Autant pour soi, je voudrais citer le sanctuaire de Montlignon qui fait aussi des sessions pour la souffrance au travail. Il y a des ouvrages aussi que je cite qui peuvent aider. En tout cas, et puis je cite aussi ces cliniques spécialisées. Quel est le point fort de ces cliniques spécialisées? C'est qu'on accueille le patient dans toute sa dimension. On ne le met pas dans un lit d'hôpital, on ne lui met pas une blouse blanche, on ne lui donne pas des médicaments en disant tu es malade, tu vas guérir. On nous demande d'être acteur. Et de quelle façon est-ce qu'on est acteur? On est considéré dans toute notre personne globale. Moi, la première chose qu'on m'a dit, c'est il faut sortir de votre chambre, il faut aller vous mettre au soleil sur un transat. C'était la médication du jour. C'est-à-dire que moi, je ne voyais plus l'intérêt de sortir. Je ne voyais plus, de toute façon, ni les arbres pousser, ni les fleurs sortir. Je ne voyais plus. Et il y a une importance à renouer le patient avec ses facultés sensorielles. Il faut lui réapprendre à voir, à entendre, à toucher, à sentir.
Revenir un peu dans le réel.
Oui, revenir dans le réel. Alors, il y a bien des méthodes. Je parle de la méthode Vitose. Il y a bien des méthodes qui existent, mais je crois que ces cliniques spécialisées sont formidables parce qu'elles vont reconnecter le patient à ses sens en faisant de la poterie, de la peinture, de la méditation, en écoutant de la musique et donc en stimulant les sens.
Puis avec une rencontre quotidienne avec le psychiatre.
Oui, alors ça c'est le choix que j'ai fait d'aller dans cette clinique parce qu'il y avait marqué ça sur le dépliant, quoi, sur le site internet. Et c'est vrai que j'ai harcelé mon médecin. Je ne voulais pas, même le samedi dimanche, je voulais rencontrer un psychiatre pour avancer.
Alors ça, on le lit très bien dans ce livre. Alors je rappelle aussi que dans ce livre, puisqu'on parlait aussi de ces cliniques d'accompagnement, vous donnez aussi, et c'est précieux à la fin, toutes les bonnes adresses. Hein. Donc les adresses aussi avec les sites et donc dans ces émissions qui seront en podcast sur le site de nos radios chrétiennes, eh bien je mettrai aussi les références de ces noms de cliniques que vous nous avez donnés aujourd'hui. Clotilde Margontin, je vous donne rendez-vous demain pour finaliser un peu cette série des clés pour vivre et revenir finalement, non plus survivre, mais retrouver les clés pour bien vivre. À demain.
À demain. Merci Nathalie.